Les colloques du Collège de France.
Bonjour, messieurs, mesdames. Tout d'abord, je remercie mon très cher et ancien ami François Desroches pour cette invitation. Notre amitié, je crois, s'approche de 40 ans de collaboration, tout ça. J'espère qu'il va continuer encore. Je vais essayer de vous présenter le thème des Corans révélés à la Mecque. Tout d'abord, il y a une petite introduction au sujet. Puis, j'essaie de parler ce qu'on appelle les sourates, c'est-à-dire 10 chapitres, je vais expliquer ça après. Les sourates révélés à la Mecque. Puis j'aborderai enfin le vif du sujet, c'est-à-dire le style et les thèmes du Coran révélé à la Mecque. Et j'avais choisi principalement trois grands thèmes que j'ai trouvés très répandus dans le Coran à la Mecque, c'est-à-dire d'abord le dogme, l'aqida, le deuxième, la morale, et le troisième, une nouvelle vision du monde. Le Coran, selon le Coran lui-même, est la révélation de Dieu au prophète Mohammed. Parlant de son origine, le Coran dit, je cite, « C'est une révélation émanant du Seigneur de l'univers. » La sourate 56 et l'aya 80. Dans le Coran, il y a les chapitres qu'on appelle les sourates, et il y a des petites phrases que normalement on traduit en français verset, mais moi j'utilise un autre terme qui est cité dans le Coran, c'est sin, ayat. Donc, le Coran étant la dernière révélation, s'inscrit dans la continuité des révélations connues dans le passé et consignées dans les grandes religions monothéistes. Le Coran se présente aussi comme c'est une continuité des livres déjà anciens révélés. On trouve donc un contenu rappelant les éléments mentionnés dans les autres livres, tels que la croyance en un Dieu unique, les origines de la création de l'univers et de la nature, la création de l'homme et de son rôle sur la terre, les prophètes et leur mission. Aussi, le Coran se décrit la fonction de dépassement par rapport aux autres livres, c'est-à-dire la relation qui existe entre le Coran et les autres livres, deux choses. D'abord, elle reprend ce qui est dans les anciens livres, parfois elle les corrige, mais il y a une autre fonction, c'est le dépassement de ces, comme étant la dernière révélation, le dépassement de ces livres. Je cite le Sourate 5, ayah 48. Et sur toi, Mohammed, nous avons fait descendre le livre, c'est-à-dire le Coran, avec la vérité pour confirmer le livre, les anciens livres, qui était là avant lui, et pour prévaloir sur lui, une sorte de prévalence sur les anciens livres. Le Coran est révélé au prophète, maintenant je vais essayer de présenter un peu ce que ça veut dire les sourates à la Mecque, révélées à la Mecque. Ou les sourates mécoises, ou le Coran mécois. Le Coran est révélé au prophète sur une durée de 23 ans. Ce n'est pas un livre qui est révélé en bloc, mais pendant toute une période de 23 ans. Le Coran, c'est à l'âge de 40 ans, à la Mecque, que Mohammed reçoit la première révélation où il se voit confier la mission du prophète. Mohammed a passé toute sa grande partie à la Mecque. 40 ans avant la révélation, 13 ans pendant quand il fut nommé, 13 ans, et après il va immigrer à Médine où il va passer 10 ans. Et donc une grande partie, et même certains disent 80% des versets des sourates, sont révélés à la Mecque. Sa mission, c'est-à-dire des prophètes, sera comme le signal au Coran d'enseigner le livre, c'est-à-dire le Coran, la sagesse, d'éduquer les individus, hommes et femmes, et proposer un cadre de vie fondé sur le respect, la dignité et la justice entre les hommes. À 53 ans, suite aux persécutions des notables de la Mecque, le prophète et les premiers musulmans quittent la Mecque et trouvent asile et refuge à Médine. Ça, c'est un événement important dans l'histoire de l'islam. Ça s'appelle la hijra, l'immigration. Et c'est à partir de cet événement que les sourates et le Coran qui a été révélé avant s'appelle le Coran Mekwa, et celui qui est révélé après à Médine s'appelle le Coran Médinois ou les sourates Médinois. Cet événement, la hijra, marque le point de départ de la datation des calendriers musulmans. On parle donc des calendriers hygriens. Les musulmans ne vont pas choisir la naissance des prophètes comme point de départ pour leur calendrier, mais un événement qu'ils considèrent comme naissance d'une nouvelle communauté. Cet événement constitue un moment fondamental entre deux étapes différentes de l'histoire de l'islam, une étape mécoise et une étape médinoise. La révélation du Coran s'effectue donc dans un premier temps, dans une période de 13 ans. Parce qu'arrivé à 40 ans à la Mecque, c'est là où le prophète fait proclamer prophète. Et donc pendant 13 ans, les sourates et les versets sont révélés à la Mecque. Et ces sourates et ce Coran, on appelle les sourates ou le Coran Mekwa. Puis à Médine, c'est-à-dire pendant 10 ans après, les sourates et le Coran révélé, on l'appellera les sourates ou le Coran médinois. Et ils diffèrent des styles et des thèmes, ce qu'on va aborder après. Quels sont les styles et les thèmes de la révélation du Coran à la Mecque et à Médine? Je vais passer en bref les sourates ou révélées à Médine, parce que ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais je citerai quelques exemples. Les sourates révélées à Médine, contrairement à celles révélées à la Mecque, diffèrent au niveau de leur forme et de leur fond, puisque Médine accueille une nouvelle communauté religieuse, la première communauté musulmane. Ces sourates du Coran de Médine se distinguent par des expressions telles que « Ô vous les croyants !» Parce que il y a une société qui vient de naître, une communauté de croyants musulmans. Et donc le Coran s'adresse à eux toujours avec « aux croyants ». Ces sourates se caractérisent par des longues phrases, par leur exposé détaillé des différentes règles juridiques liées à la pratique religieuse et aux relations humaines, mariage, famille, commerce, ainsi de suite. Ou encore par l'établissement des différentes règles de vie à Médine et avec les autres tribus d'Arabie. À la Mecque, c'est-à-dire maintenant on va revenir en arrière, c'est-à-dire pour parler des sourates et des versets de la Mecque, le Coran interagit avec un autre, dans un autre contexte. Comme c'est le dernier message, le Coran s'universalise, s'adresse à toute l'humanité, quelles que soient ses couleurs et ses religions. En général, dans les ayats et les sourates révélées à la Mecque, le discours coranique utilise la formule « Ya ayyuhannas »« Ô vous les gens ». Le terme « annas » ou « les gens » englobe masculin et féminin. Les Arabes, les musulmans, les juifs, les chrétiens, les polythéistes et l'humanité tout entière. Je cite quelques ayats typiques à la Mecque. Sourate 2, l'ayat 21. Ô vous, les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédé. Ainsi atteindriez-vous la piété. Une autre sourate et ayat 58, l'A'raf, dit « Ô gens, je suis le messager d'Allah pour vous tous. je cite le dernier, dans la sourate de l'Anbiya, des prophètes, nous t'avons, c'est-à-dire Mohammed, nous t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. Maintenant, ça, j'ai appris à faire la différence entre les sourates mécoises et les sourates médinoises. Les sourates mécoises, ce sont les sourates révélées à la Mecque avant l'immigration, c'est-à-dire à l'âge de 53. Et après, ce sera les sourates médinoises. Maintenant, je passe au vif du sujet, c'est-à-dire les thèmes qui sont abordés dans le sourate mécoise. J'ai suivi trois thèmes qui me paraissent importants. D'abord, le premier concerne l'aqida, le dogme. Le deuxième, la morale. Et le troisième, une autre vision du monde, une autre conception du monde. À la Mecque, le Coran, dans ses premières révélations, axe son discours sur les thématiques fondatrices de l'islam. Le dogme, la morale et une nouvelle vision du monde. Le premier, le dogme. Pendant 13 ans complètes, le Coran se focalisera essentiellement sur un seul sujet et le présentera de différentes manières. C'est de connaître l'existence d'un Dieu créateur seul et unique, se suffisant lui-même. Le Coran vient ainsi annuler les croyances en plusieurs idoles présentes, les idoles qui étaient présentes au sein de la maison sacrée de la Kaaba. La Kaaba, c'est le lieu où les musulmans se rendent au pèlerinage. Et pour les musulmans, ça, c'est une maison de Dieu qui a été fondée par Ibrahim. Et c'est pour cela que l'islam se présente comme une continuité de la religion d'Ibrahim. Et pour les musulmans, Abraham ou autres sont dans la lignée de l'islam. Il propose aux croyants d'abandonner une fois en plusieurs dieux pour revenir vers une foi en un seul Dieu unique. C'est la notion essentielle de l'aqida, c'est le tawhid, l'unicité de Dieu. Ce tawhid se réalise en prononçant sincèrement l'attestation de foi qu'on appelle al-shahada. Pour devenir musulman, il faut dire shahada qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'existe aucun Dieu en dehors de Dieu unique et Mohammed et son messager. Et pendant toutes ces 13 ans, le prophète demandait aux gens de la Mecque une seule chose, de dire la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne demande ni jeûne, ni prière, ni impôt, ou zakat, ni rien, mais uniquement ça, parce que ça, c'est le fondement de l'islam. Témoigner qu'il n'existe aucun Dieu en dehors de Dieu unique, c'est reconnaître que Dieu est le créateur de tous. Il n'y a pas un Dieu pour les uns et un autre Dieu pour les autres. À la différence de toutes les créatures, le créateur ne change ni dans le temps, ni dans l'espace. Il est absolument, ou il est absolu et transcendant. C'est la notion contenue dans la ilaha illallah. Témoigner que Mohammed, la deuxième partie du témoignage, « Wa anna Mohammed al-Rasulullah », c'est-à-dire Mohammed et son messager, c'est reconnaître que son message est bien un message divin et que sa personne est exemplaire pour quiconque désire plaire à Dieu et vivre selon la sagesse. Aussi, le shahada ne doit pas être qu'une simple parole. C'est un engagement à vivre selon la voie de Dieu, vivre épanoui, tout en agissant selon le bien et en résistant contre l'injustice sur la terre. Cette formule n'est pas qu'un simple principe théorique, religieux ou théologique. Comme l'explique Al-Farouqi, ce principe inspire et oriente tous les aspects de la vie personnelle et collective des musulmans. Je cite Farouqi, « Parfois toute une culture, toute une civilisation ou toute une histoire peut être comprimée en une seule phrase. Ceci est très certainement le cas de la kalima, c'est-à-dire la déclaration de la shahada. Toute la diversité, la richesse, l'histoire, la culture, le savoir, la sagesse et la civilisation de l'islam sont résumées dans la plus courte des phrases. La ilaha illallah. Il n'existe aucun Dieu en dehors de Dieu unique. En d'autres termes, le tawhid est une vision globale et générale de la réalité, de la vérité, du monde, de l'espace et des temps, de l'histoire et de la destinée humaine. D'autres points des dogmes sont abordés dans les sourates révélées à la Mecque concernant l'aqidah, la théologie. Ils occupent une place toute importante que celle du tawhid, car ils sont directement liés au premier principe de la shahada. Ces points sont par exemple la croyance aux anges, l'ange Gabriel ou autre, aux livres révélés, c'est-à-dire les livres anciens, la Torah, l'Évangile, les psaumes, les feuillets d'Abraham, à croire à tous les prophètes sans aucune distinction, dont une vingtaine sont mentionnés dans le Coran. Et quelques sourates portent leur nom, quelques sourates dans le Coran portent le nom de ces prophètes. La sourate 10, Jonas, Yunus. La sourate 11, Houd. La sourate 12, Youssouf. La sourate 14, Abraham ou Ibrahim. La sourate 19, que notre ami François Deroche va en parler à la fin de ce colloque, c'est Maryam, Marie. La sourate 71, Noé. Non, même il y a par exemple la sourate de la famille Imran, de Marie, c'est la sourate 13. L'islam insiste sur l'obligation de croire à tous ses prophètes, tout comme le croyant croit que Mohammed est un prophète. En islam, quelqu'un qui ne croit pas à un de ses prophètes, il n'est plus musulman. Toutes les prophéties, il doit les croire comme on croit à Mohammed, à même égal. Il y a aussi la croyance au jour des derniers et des destins. Donc, ça c'est la première thématique, c'est la aqida, le dogme. La deuxième thématique, traitée dans les sourates mikwazes, c'est celui de la morale, l'akhlaq. Cette thématique découle naturellement de la précédente. Et en est une de ses conséquences. L'engagement à vivre de façon morale est la suite logique de la reconnaissance de la réalité de Dieu. C'est pourquoi le Coran combine systématiquement le fait de reconnaître la réalité de Dieu et le devoir d'agir selon la morale. Comme dans quelques exemples. Je donne quelques exemples. Sourate 16, c'est les abeilles, Nahl. L'ayat 90-91. En vérité, Dieu ordonne l'équité, l'excellence morale et la générosité envers les proches. Il interdit la bassesse morale, les mauvaises actions et la tyrannie. Dieu vous encourage ainsi pour vous amener à réfléchir. Soyez fidèles au pacte de Dieu lorsque vous l'avez conclu. Ne rompez pas les promesses après les avoir faites solennellement, en prenant Dieu comme garant contre vous. Le sourate 6, l'ayat 151, Dieu dit leur, c'est-à-dire Mohammed dit aux gens, venez donc, je vous récite ce que Dieu vous interdit. Ne lui associez rien, le dogme, l'aqida, traitez vos parents et mères avec bonté. Ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous assurons votre subsistance ainsi que la leur. Éloignez-vous de la bassesse morale, quelle que soit apparente ou cachée. Ne tuez personne, car Dieu a rendu sacrée la personne humaine, sauf dans l'exercice d'un droit juste. Voilà ce que Dieu vous prescrit, peut-être. Raisonnez-vous. Le troisième thème, enfin je clôture avec ce troisième, je n'ai pas encore dépassé le temps, voilà, c'est une autre vision du monde, ou on peut appeler un autre paradigme qui vient de naître. L'islam n'est pas une nouvelle religion, mais la réputation, la confirmation, le rappel et la synthèse de même messages divins révélés depuis Adam jusqu'à Mohammed, en passant par tous les messages révélés aux prophètes. Pendant la période mikwaze, c'est-à-dire le début de la révélation, et en absence d'une société islamique, parce qu'à cette époque-là, il y avait uniquement des individus de croyants, le Coran avait pour but de présenter les fondements théoriques et philosophiques de l'islam, en laissant le côté juridique à la période médinoise, quand la société islamique verra le jour. D'ailleurs, les principes élaborés à la Mecque seront à la base de la première constitution islamique à Médine. Lorsque le prophète va à Médine, il va trouver des juifs, des non-croyants et les croyants. Il va élaborer une constitution pour que toutes ces communautés vivent ensemble. Et ça s'appelle le pacte de Médine. Ça, c'est une constitution. Une société multireligieuse entre musulmans, juifs et non-croyants. Une communauté à Médine où chaque groupe pourra réguler sa vie personnelle et collective selon ses propres lois religieuses. C'est-à-dire que les lois islamiques ne s'appliquent qu'aux musulmans. Les autres choisissent leur propre loi. Six ans après le pacte de Médine, les chrétiens de Najran, c'est-à-dire dans le sud de l'Arabie, sont venus à Médine pour rencontrer Mohammed. Ils furent bien accueillis et plus tard, les califes qui succèdent au prophète accordent le même statut. C'est-à-dire qu'une communauté multireligieuse, chacun vivre selon ses propres lois, accordèrent le même statut, c'est-à-dire de pouvoir vivre librement sa religion, comme cela était préconisé dans le pacte Médine. C'est-à-dire que les califes qui sont venus après, ils ont donné le même droit aux zoroastriens, aux hindous et aux bouddhistes. Cette vision du monde est aussi une vision de la gestion de la diversité. Dès la période mécoise, le principe de la liberté religieuse a été instauré. Pas de contraintes dans la religion. Désormais, le bon chemin se distingue de l'égarement. Cette vision du monde est aussi une vision du respect de la dignité humaine. Nous avons honoré les fils d'Adam, l'ayat 70. Nous avons honoré les fils d'Adam. Nous les avons transportés sur terre et sur mer. Nous leur avons dispensé de nos meilleures nourritures et les avons manifestement privilégiés par rapport à nombre de nos créatures. Pour combler l'homme, et lui permettre de réaliser sa mission, Dieu a mis à sa disposition les cieux, la terre, ce que le Coran appelle « at-tasrir ». Parce que dans le Coran mécois, le but des humains est adorer Dieu. Et l'adoration, c'est un mot global qui englobe tous les actes de bien. Et l'un des actes les plus nobles d'adoration, c'est établir la civilisation sur la terre. La civilisation. C'est pour cela que le Coran emploie ce mot at-tasrir, c'est-à-dire que le Dieu a mis à la disposition des humains la terre, les ciels, tout ça, afin qu'il élabore la civilisation. Dans Sourate Luqman, ne voyez pas que Dieu a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et qu'il vous a prodigué ses bienfaits, et aussi bien apparentes que cachées. Cette vision du monde est aussi une vision de responsabilité individuelle. Chaque âme est responsable de ce qui lui incombe. Aucune n'est chargée de porter la responsabilité des fautes de l'autre. Puis vous ferez retour vers votre maître, il vous informera sur l'objet de vos différends. C'est-à-dire, ce verset, cette ayah, il instaure la responsabilité individuelle. Si quelqu'un, par exemple, commet quelque chose de répréhensible, c'est lui qui est responsable, ce n'est pas sa famille ou sa tribu, tout ça. Et ainsi de suite, voilà, je finis avec ça. J'espère que Ça, c'était un peu bien clair, et malgré que j'ai un peu réduit le cours bien. Donc.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.